Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Nous y voici, nous y voilà. Nous sommes en direct en live sur Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et c'est Cannabis Circus comme tous les lundis de 21h à 22h. Normalement tout devrait aller. On va vous parler, faire la revue de presse cannabique comme chaque semaine, comme un petit peu tout le temps, tous les lundis, depuis pas mal d'années déjà. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui se passe au Canada avec l'avancée pénible et lente d'un texte de loi dans un pays démocratique. On va dire, donc ça prend du temps. Voilà, et puis après on ira voir deux discours un petit peu aux États-Unis, entre autres l'épidémie d'opioïdes dont on parle régulièrement. Donc vous en avez sans doute entendu parler avec la presse ou dans la presse de ci, de là. Voilà, on reviendra un petit peu sur cet événement et sur le nombre de morts assez affolant qu'il y a par an là-dessus. On parlera aussi du Lego et du plastique de chambre, pour la petite histoire, puisque c'est quelque chose qui marche et qui fonctionne, donc c'est bien. Le cannabis est aussi d'abord une plante qui a toujours suivi l'homme dans son évolution et qui a été utilisée pour ses propriétés psychotropes aussi bien que pour ses propriétés textiles, et les deux ont accompagné la civilisation, voilà,
au moins jusqu'aux années 30.
Après, ça s'est corsé.
Mais... en raison de la prohibition, notamment.
Voilà, tout à fait. Voilà, donc dans la revue de presse, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait juste un rappel pour si jamais il y en a qui sont à Paris ou s'il y a un... ou pourquoi pas. Voilà, il y a un petit truc à la Sorbonne.
Un colloque
qui peut être intéressant.
Demain.
Voilà, entrée libre mais sur réservation, donc il faut penser à réserver... Sinon, c'est mort, donc il reste quelques places. Donc le slogan, c'est « Penser le changement ou changer le pansement ». Voilà, c'est Normal qui organise ça, Normal France. C'est Eric, ça, voilà.
Voilà, donc y a plusieurs intervenants, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, je vous avais un peu donné le menu, l'ordre du jour. Et voilà, donc bon, c'est à partir de demain, à partir de quelle heure ? 18h30, non ? Non, ça commence le matin.
19h,
oui.
19h à 21h.
Voilà. Donc, à la Sorbonne.
Ouais.
Voilà. J'avais donné l'adresse la semaine dernière, je ne l'ai pas sous les yeux ce soir. Mais bon, à la Sorbonne, je pense que si ça vous intéresse, vous tapez Sorbonne, colloque addiction. Cannabis, voilà, vous tapez tout ça sur Google, maintenant c'est tellement simple tout ça, que donc vous pourrez trouver les coordonnées du lieu, exact et précis, l'amphi, etc. Et vous pourrez également trouver la liste des intervenants qui vont participer à ce colloque qui a l'air plutôt intéressant. Donc nous ne pouvons que vous encourager à y assister ou en tout cas vous y rendre. Tout simplement. Voilà. Donc c'est à partir de demain à la Sorbonne, changer le pansement, penser le changement. Petit colloque addiction, très intéressant, organisé par Normal France.
Voilà, et puis une petite brève sinon avant d'attaquer par un petit peu de musique.
Oui, une petite brève fait divers, hein, comme on en met souvent dans notre revue de presse et comme on en parle à peu près tout le temps en début d'émission, sauf la semaine dernière où il n'y en avait pas, mais bon, cette semaine il y avait quelque chose. Donc c'est un article du Dauphiné qui nous raconte la mésaventure de 90 élèves lycéens dans un lycée professionnel, d'après ce que j'ai compris dans l'article.
Tout à fait.
90 lycéens qui ont été contrôlés par 15 militaires de la communauté de brigade de la Voulture-Rhône, donc en Drôme-Ardèche. Avec l'autorisation du chef d'établissement.
Bien sûr.
Voilà.
Et du rectorat, sans doute aussi.
Et du rectorat. Donc, la mission de ces policiers, contrôler tous les élèves qui descendaient des bus scolaires et détecter, si possible, la présence de stupéfiants. Une opération également menée sur réquisition du procureur de la République, évidemment, et donc en accord avec le chef d'établissement, la chef d'établissement. Donc comment ça s'est passé? Eh bien, alors arrivé devant l'établissement, les bus où les élèves avaient laissé leurs sacs ont été fouillés par le chien spécialisé dans la recherche des stupéfiants. Les propriétaires des sacs marqués par le chien ont ensuite été contrôlés par les gendarmes qui ont détecté que parmi les 98 élèves, 18 lycéens avaient consommé du cannabis. Alors là, par contre, j'avoue que je sais pas comment ils ont fait pour savoir ça.
L'article est... qu'ils aient testé chacun des élèves, mais l'article est très flou là-dessus. Hein.
Oui, parce que, en tout cas, bon, effectivement, le chien a marqué les sacs qui pouvaient contenir du cannabis, parce que c'est le rôle du chien. Hein. Après, comment on ne sait pas comment les gendarmes ont déduit que ceux qui en avaient dans leur sac en avaient consommé, parce que c'est pas du tout automatique. Hein. Ça, on a un peu du mal à comprendre. Mais bon, vu l'article, comment il est écrit, on n'est pas très surpris de ces approximations. Donc certains lycéens étaient apparemment en possession d'herbes ou de résine de cannabis dans leur sac. Voilà ce qu'on peut savoir de sources sûres. Alors, que nous dit le chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie du Teil? Il dit ceci: c'est extrêmement préoccupant, car il faut que ces élèves se rendent compte que la consommation de cannabis peut rendre très dangereuse l'utilisation des machines dans cette filière professionnelle. Et il ajoute: on espère que le corps professoral fera aussi passer le message. Donc tous les jeunes étaient mineurs et ils sont tous auditionnés par la gendarmerie en présence de leurs parents qui seront également convoqués. Voilà ce dont nous parle l'article. Donc voilà.
Dans le Dauphiné.
Dans le Dauphiné, voilà. Dans le Dauphiné.com. Donc si vous avez des enfants en âge d'aller au lycée, sachez que ce genre d'opération peut se matérialiser, peut se décider avec le procureur, le chef d'établissement. Faut-il encore qu'il soit d'accord? Bon, là c'était le cas. Voilà. Pas de commentaires, non?
Pas de commentaires.
Et musique, à tout de suite.
Il avait toujours plu aux femmes et les aimait même un peu trop. Et pour les fesses de ses dames, il se serait fait trouer la peau. Lorsqu'il mourut, il eut le droit sous une autre forme de prendre vie. Il réfléchit puis décida de renaître en vélo pour fille. Marguerite et Josiane, Évelyne et Viviane, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. C'était pour lui le paradis, il les prenait dans l'engrenage. Parfois même il avait deux filles, une sur lui, l'autre sur le porte-bagages. Marguerite et Josiane, Évelyne et Viviane, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Puis Marguerite eut un ami, il eut du mal à encadrer, car elle le délaissait pour lui et n'aimait plus que la marche à pied. Marguerite et Josiane, Évelyne et Viviane, toutes ses amies se frottant sur son épine dorsale. Puis l'ami en question s'enfuit en volant l'amour de vélo, qui a son coup de pédale compris que l'ami était un homo. Depuis, le pauvre est peint en rose, toute la journée il ronge son frein. Plus de Marguerite, ça le rend morose.
Par contre, il a tous ses copains. Jean-Robert et Marcel, Philibert et Étienne, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Jean-René et Philou, Philibert et Loulou, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale.
Oh, il y en avait du beau monde sur ce vélo. Oui, il y avait Georges. Ah oui, j'avais vu. Également avec le pneu un peu écrasé à cause de lui.
Mais il était gros, Georges.
Ah ben, c'est vrai, un peu.
Ah, c'est pas de sa faute, hein.
Et puis, il y avait Arnaud qui courait. Et Jean-Pierre. Et le vieux charbonnier, vous savez, Canche.
Ah oui.
Yes.
C'était les non-tropos. Avec non-tropos. Le morceau Le Vélo.
Voilà, tout à fait.
Alors, maintenant on va s'intéresser à un petit article, une petite tribune, en fait un petit édito qui a été publié sur le site de la Sensicides. Fumez moins mais fumez plus. Et c'est un article qui est signé de Mishka Seliger-Châtelain, que vous connaissez peut-être pas, mais que les canactivistes français connaissent bien.
Tout à fait.
Mishka a notamment participé à la publication de plusieurs ouvrages, a également publié elle-même des ouvrages. Je crois que c'était l'une des premières à publier un bouquin sur le cannabis thérapeutique début des années 90, il y a pas loin de 30 ans.
Ça doit être ça, quelque chose comme ça dans les dates, oui.
Voilà, c'est un bouquin qu'on a encore, en démonstration dans nos packages de bouquins au cirque. Mmh. Un livre qu'on montre sur nos stands, mais qui n'est plus édité, me semble-t-il. Donc,
D'autant plus que même si ce qui était dit était un peu vrai, la science a un peu évolué, grâce à la France, mais en tout cas grâce à d'autres pays et d'autres recherches sur le cannabis thérapeutique de ci, de là, aussi bien un peu aux États-Unis, un peu au Canada, beaucoup en Israël. Un petit peu en Australie aussi, de par le monde, quoi.
Voilà. Donc, cet article le titre est peut paraître un peu surprenant, mais vous allez voir pourquoi. On va vous lire, en fait, je vais vous lire sa tribune, c'est très intéressant.
Donc, t'as dit le titre déjà ?
Fumez moins, mais fumez plus, point d'interrogation.
Voilà.
Pourquoi ? Alors, bon. L'amour dure 3 ans, dit-on, nous dit-elle. Au bout de 3 ans, l'habitude occupe si bien la place que l'objet de notre amour n'a plus le même éclat à nos yeux. La routine a tué le merveilleux. Or, il en va de même avec l'herbe. Alors moi, j'ai envie de rajouter, pas pour tout le monde quand même, hein. Or, il en va de même avec l'herbe. À force de trop la fréquenter, on finit par ne plus y trouver ce que l'on aimait tant au début. Paradoxalement, fumer moins souvent permet d'y trouver un plaisir plus vif. C'est comme s'il nous fallait choisir entre l'intensité et le confort, nous dit-elle. Car si le confort peut être quotidien, l'intensité, en revanche, c'est dans sa nature même, ne peut être qu'occasionnelle. Si c'est l'intensité que l'on recherche, on a tout intérêt à consommer moins souvent, quitte à absorber des quantités plus importantes à l'occasion, et à manger l'herbe plutôt qu'à la fumer, bien sûr. J'étais à Seattle, nous dit Mishka, hein, parce que moi j'y suis pas allé. Hein. Donc j'étais à Seattle récemment, où le récréatif est légal depuis belle lurette, ajoute-t-elle, et dans le magasin spécialisé qui se trouvait près des amis chez qui je logeais, j'ai eu le plaisir de découvrir les bouchées au chocolat infusées au cannabis. La touche de génie, c'est que, quelle qu'en soit la marque, elles sont toutes dosées à 10 mg de THC, ces bouchées au chocolat. Si bien que l'on sait exactement à quel effet s'attendre, contrairement au côté roulette russe qui, sinon, accompagne ce type de préparation. J'ai pu constater que 10 mg de THC avait sur moi un effet extrêmement agréable, jamais trop fort, et cela pendant au moins 4 heures, ce qui a fait naître une pensée émue pour les patients qui ont absolument besoin du cannabis pour des difficultés de santé. Quelle heureuse façon de se soigner à Caen chez nous. Après plusieurs jours de traitement quotidien, traitement entre guillemets, hein, je me suis astreinte à quelques jours de sobriété, car consommer moins souvent, mais éventuellement en quantité plus importante, me semble une bonne recette pour maintenir ou retrouver tout l'éclat de notre histoire d'amour avec l'herbe. pour renouer avec la légèreté ou la profondeur, et en tout cas le rire et la créativité si présents au début de nos rapports avec elle. Aux nouveaux consommateurs, j'aime dire, faites en sorte de ne fumer ou vaporiser que occasionnellement, une fois par semaine, parfait. Et en tout cas, pas tous les jours, afin de garder entier votre plaisir. Et bien sûr, j'aime à rappeler que toutes les herbes ne naissent pas égales. Ce sont les sativas, aux longues feuilles étroites, qui détiennent ce talent remarquable pour stimuler notre imaginaire et notre entendement, et nous rendre, dirait-on, temporairement plus intelligents. Temporairement. Autre intérêt de ce type de consommation, il nous rapproche de la dimension sacrée de l'herbe, de sa remarquable capacité à nous faire redécouvrir notre lien avec la nature, Le monde naturel est un et indivisible, et nous, les humains, en faisons intrinsèquement partie. Nous sommes la nature. Le ressentir au plus profond de nos cellules fait un bien fou. Dans les années 60, quand les fils et les filles de la bourgeoisie blanche américaine ont découvert la marijuana, la parent de toutes les vertus, mais se méfiant de l'alcool cher à leurs parents, ils disaient « Dieu a créé l'herbe, l'homme a créé l'alcool ». Auquel faites-vous confiance? Pour ma part, je choisirai toujours de faire confiance à la terre mère plutôt qu'à nos concoctions, si tentantes soient-elles. Si bien que, au risque de passer pour rétrograde, je dirais ceci: on ne peut pas se tromper en restant au plus près de la plante, telle que la nature l'a faite. Ne nous précipitons pas trop vite vers les préparations qui sortent des mains humaines. Enfin, j'ajouterai une dernière remarque: maintenir le cannabis et le tabac séparés, comme on le fait traditionnellement sur le continent américain, afin de ne pas les consommer mêlés, permet d'y voir plus clair dans les rapports que nous entretenons avec l'une et l'autre plante. Ce qui est intéressant pour gérer de façon satisfaisante nos rapports avec elle, quels que soient nos critères personnels en ce domaine. Voilà 45 ans que l'herbe est pour moi une amie et une alliée. Je lui sais gré de me mettre en contact avec mon intuition, ce qui, à mes yeux, n'est pas une mince affaire, car l'intuition est le canal par lequel nous parviennent les messages de notre moi intérieur. Or, celui-ci a accès à la conscience universelle. Il peut puiser des informations aussi bien dans le passé que dans le futur. Aussi m'arrive-t-il de me tourner vers une sativa, chose qui, hélas, se fait rare, lorsque j'ai une décision importante à prendre. Après quasiment un demi-siècle de compagnonnage heureux avec l'herbe, ce sont là les quelques conclusions auxquelles je suis parvenu et que je suis heureuse de partager avec celles et ceux qui ont à cœur de préserver le meilleur dans leur rapport avec cette plante maîtresse. Plante maîtresse qui nous accompagne depuis la nuit des temps et qui a su développer tant de façons de nous séduire. Voilà ce que nous raconte Mishka.
Voilà, tel une extenso, ce petit texte de Mishka qui a été publié dans Senseicid, pour donner un petit peu la source.
Voilà, senseicid.com, fumez moins mais fumez plus, point d'interrogation, voilà, si ça vous intéresse.
Heureusement qu'elle est à Seattle pour pouvoir nous dire tout ça.
Oui, parce que c'est pas en étant là que ça
elle pourrait le dire. Le Sénat pourrait retarder la légalisation du cannabis.
Oui, ça se passe au Canada, oui.
Ah, alors là, c'est le législatif, hein, c'est long tout ça. Justin Trudeau, donc le Premier ministre canadien, qui avait donc promis de légaliser le cannabis, qui tient parole, et donc qui a le projet de loi C-45 qui est en train de passer petit à petit devant la première chambre, parce que là-bas aussi, a priori, ils ont deux chambres. Voilà, donc et là a priori donc ça va discuter ferme, et donc l'échéancier va peut-être changer parce que ça va prendre un certain temps de passer devant le Parlement canadien et devant le Sénat canadien. Alors je vais pas lire l'article in extenso, en tout cas il y a quelques controverses là-dessus. Il y en a quand même qui râlent, qui se disent que quand même c'est dangereux. Il y a beaucoup de sénateurs et autant d'opinions, donc il y en a qui se posent des questions sur la santé physique, psychologique, sur les jeunes, qu'est-ce que ça va faire et tout ça. les associations médicales canadiennes disent qu'il faut relever l'âge minimum à 21 ans pour pouvoir en acheter plutôt que 18 ans. Donc il y a différentes discussions diverses et variées. Voilà. Et est-ce que donc ils vont arriver à publier ça pour la fin 2017, voire début 2018? Ça là, semble. Est-ce que cela semble réaliste? Voilà, toute la question est là. À quelle vitesse le Sénat canadien va-t-il aller pour discuter tout ça?
Oui, alors quand même, ce qu'on peut dire, c'est que bon, voilà, on peut effectivement, on peut comprendre que le Sénat veut prendre son temps pour étudier le texte. Ça me paraît assez évident, et ce que semble reprocher dans cet article, en tout cas, un certain nombre de protagonistes, de sénateurs, c'est que on les force un peu à aller vite, quoi.
Voilà, tout à fait. Voilà. En conclusion, voilà, le projet de loi donc est toujours à l'étude dans la Chambre des communes, où les libéraux sont majoritaires. Donc si tout va bien, il devrait être acheminé au Sénat au cours des prochaines semaines. Donc l'article est du 3 novembre, donc voilà, avant la fin du mois, normalement, il va être au Sénat. Mais là-bas, le Sénat est beaucoup plus indépendant et les libéraux n'ont plus le contrôle sur le déroulement des travaux. Donc ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc on verra bien quand la loi sortira réellement.
Oui, en effet. Pour l'instant, on ne peut dire que ça. Donc c'est un article qui nous vient de Radio-Canada. Voilà. Alors, article qu'on doit lier avec l'article suivant, en fait, qui nous vient du devoir.com, qui est aussi un site canadien. Et dans cet article du devoir.com, un article de début novembre, eh bien, il y a un professeur qui s'exprime, le professeur Jean-Sébastien Fallu de l'Université de Montréal, qui regrette les propos exagérés d'un certain nombre de scientifiques et notamment de psychiatres. Et quand on voit un peu donc l'article précédent là sur justement le temps que ça va prendre au Sénat et les arguments de quelques sénateurs, hein, notamment le sénateur Claude Carignan et son collègue conservateur Vern White, qui sont pas d'accord sur justement l'âge minimal fixé à 18 ans, comme tu disais. Et donc le sénateur Carignan dit, voilà, tous les médecins à qui j'ai parlé, les psychiatres, tout le monde lève un drapeau rouge. Bah effectivement, c'est sûr que si les psychiatres et notamment, enfin quelques psychiatres et notamment cette psychiatre là, Karine Igarta, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, font peur aux sénateurs en leur sortant des arguments catastrophistes, c'est sûr qu'au Sénat, ils veulent prendre leur temps pour examiner tout ça, ce qui me paraît normal. Or là, justement, ce professeur de l'Université de Montréal, le professeur Fallu, il est pas content. Parce que, en gros, ce qu'il reproche à un certain nombre de psychiatres, c'est de parler au nom de tous les psychiatres, tous les médecins, les professeurs. Or, lui, il dit, attention, il y en a quelques-uns qui sont alarmistes et catastrophistes. Par contre, il y en a beaucoup qui sont pas de cet avis et qui, visiblement, sont d'accord avec Fallu et qui sont contents qu'il ait fait cette sortie médiatique il y a quelques semaines pour calmer tout le monde. Donc, en fait, le professeur Fallu, il est sorti un peu de ses gonds en regardant l'enregistrement d'un talk show à la télé le matin au Canada, hein, un talk show qui s'appelle Deux filles le matin. Donc c'était deux émissions complètes des 21 et 28 octobre, et la discussion portait sur la légalisation justement du cannabis. Et en compagnie de quelques vedettes et deux docteurs en médecine, donc la psychiatre Karine Igarta et le professeur Jean-Pierre Chiasson. Voilà.
Ouais. Son détecteur personnel d'exagération a failli exploser.
Tout à fait.
C'est absolument désolant, ahurissant, dit-il. Les affirmations faites pendant ces deux heures d'émission manque totalement de nuances. On n'y retrouve aucune reconnaissance des limites des études sur lesquelles les craintes reposent. On verse dans le déterminisme sans ajouter la moindre prudence. On prononce des phrases absolutistes du genre « les jeunes vont faire ci ou ça si on légalise le cannabis ». Pire que ça, Madame Igarta dit que des études ont montré une baisse de QI de 8 points chez les consommateurs de cannabis. Ce ne sont pas des études, mais une étude. Et depuis, il y en a eu au moins une récente qui n'a pas répliqué les résultats. Le tout dans une attitude condescendance, hautaine. L'humilité et la modestie ont été oubliées.
Voilà, donc il est fâché, hein, le professeur Fallu. Et on peut le comprendre.
Ah bah oui, forcément.
Et j'ai envie de dire, on a un peu le même problème ici. Hein. Sauf que l'heure n'est pas à la légalisation en France. Mais sinon, on a un peu le même problème avec nous, avec les experts, ou en tout cas ceux qui se prétendent l'être. On le voit quand même assez régulièrement. Donc voilà... Une partie de l'article nous rappelle donc que le Québec a passé la dernière année en colloque, en séminaire, en réflexion plus ou moins médiatisée sur la question de la légalisation. Maintenant, il faut trancher, parce que, nous dit l'article, la décision fédérale est prise et que la légalisation se fera l'an prochain. L'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont déjà annoncé leur couleur. On attend les décisions du Québec. Et donc, pour le professeur Fallu, ce grand débat sur la légalisation aura été trop souvent alarmiste, comme on vient de le dire. Et donc cet exemple de l'émission matinale semble confirmer l'air du temps. Alors, il y a deux semaines, ce professeur a écrit une lettre aux médias intitulée « La légalisation rend les psychiatres fous ». Voilà, et il dit « Je n'ai jamais reçu autant de commentaires positifs après une intervention publique. Des professionnels liés à des institutions qui ne peuvent pas parler, comme je l'ai fait, m'ont remercié encore et encore en disant qu'il était temps que ça sorte, je ne suis donc pas le seul ». À penser que ça suffit, qu'il y a beaucoup trop de personnes qui s'énervent. Pour rien, je sais pas, c'est normal de se questionner. Mais il y a assurément une dramatisation et un certain dérapage jusqu'à en perdre la boule. Il raconte avoir entendu des journalistes dire ou avoir lu des articles disant que la légalisation à 18 ans du cannabis se ferait à l'encontre des recommandations des, au lieu de certains spécialistes, hein, ce qu'on disait
oui,
un peu,
tout
hein,
à fait.
Ou même des organismes de la santé publique, ce qui est faux. On mélange tout, on se rend rapidement aux arguments dramatisants, c'est désolant. Voilà. Alors, après on rentre un peu dans le cœur du débat et des arguments. Donc la psychiatre Karine Igarta, pour parler de la fragilité du cerveau des adolescents, utilise une allégorie aviaire, en rappelant que les canards sont matures 24 heures après leur naissance, tandis que le cerveau humain, il met des années pour se développer, et que en gros, il a fini de se raffiner, comme dit la psychiatre, à l'âge de 25 ans. Voilà. Dit-elle, hein, pour justifier... de sa position et de celle de son association, et notamment pour pas consommer de cannabis avant cet âge.
Ce qui d'ailleurs n'est pas faux.
Non, non, en effet.
Ouais. Faut quand même le reconnaître. Après, ce qui est vrai pour le cannabis est aussi vrai pour l'alcool, et aussi vrai pour beaucoup de médicaments psychoactifs qui sont utilisés pour soigner les maladies. Voilà, donc voilà. Le débat, il faut le poser comme ça, il faut le poser sur toutes les en entier, parce que où on interdit tout, où on autorise tout, quoi. Voilà. Après, il faut savoir comment on autorise, comment on légalise, quelle est la position qu'on adopte. Il faut trouver la bonne politique, plante produit par produit. Il faut une politique différente pour chacun des produits. Et donc voilà, donc pour le cannabis, il en faut une en particulier.
Voilà. Alors, ce que Fallu, en fait, ce que le professeur Fallu critique, c'est aussi les arguments concrets, hein, qui ont été mis en avant par la docteure Igarta. Donc, elle parlait des effets de consommation du cannabis tels que mesurés par imagerie cérébrale, qui montrent un changement dans la structure du cerveau, mais aussi une réduction du volume du cerveau et un amincissement du cortex et des changements dans la matière blanche. De quoi faire peur aux humains qui, dit-il, ne sont ni des poules mouillées ni des canards. Donc ce professeur, lui, il pointe au contraire une étude toute fraîche intitulé « La neurotoxicité du cannabis » paru dans Psychotrope très récemment, donc cette année, Revue internationale des toxicomanies et des dépendances. Voilà. Et donc l'article rappelle que, je cite, « les discussions récentes concernant la réglementation de la consommation du cannabis ont réactualisé la question des effets nocifs de ce produit, particulièrement sur son effet potentiellement toxique sur la structure du cerveau. » L'analyse synthétise les enquêtes produites au cours des deux dernières décennies pour mesurer les effets de la consommation chez les adultes comme chez les adolescents. Au vu des données disponibles, dit le résumé de l'étude, on ne peut donc pas retenir l'hypothèse d'un effet toxique du cannabis qui aurait comme conséquence des changements de volume du cerveau. Aucune mesure préventive ou répressive ne peut ainsi prendre appui sur la thèse d'un tel effet toxique. Voilà, donc voilà qui est clair et qui invalide complètement les propos de cette psychiatre, Madame Iguarta. Voilà. Mais elle n'en démord pas, cette Madame Iguarta, et son association non plus. Et elle continue d'envoyer des articles qui appuient ses thèses, notamment sur les. D'envoyer des articles, je pense, aux politiques et à des sénateurs, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, je pense. Et elle continue donc à envoyer ces articles qui appuient ses thèses, notamment sur les possibles effets néfastes du cerveau. Sur le cerveau avant 25 ans. Voilà. Elle ne fait que répéter ses inquiétudes avec celles de ses collègues, comme celle du risque du reste du Canada, nous dit-elle. Donc visiblement, elle connaît beaucoup de monde au Canada, cette docteure Iguarta. Et elle dit comme ça, voilà, nous en clinique, on le voit tous les jours avec des jeunes qui nous arrivent en psychose. Voilà, déjà, là, quand on voit ça, on se dit, elle doit pas tout comprendre, et visiblement, pour une psychiatre, c'est étonnant qu'elle mélange d'éventuelles bouffées délirantes ou une confusion dans l'esprit de ce qu'on fumait avec une psychose, ce qui est quand même pas pareil. Hein.
Elle est dans l'exagération, moi. Donc eux, c'est sûr que nous regardons ce débat strictement du point de vue de la santé mentale. Voilà. Elle se place en psychiatre, c'est tout. On regarde ce qu'on voit cliniquement dans les études, dans les déclarations des autres associations de médecine psychiatrique.
Sans tenir compte des études.
Mais après, elle voit ce qu'elle voit. Qu'est-ce qui arrive dans les cliniques? Et après, il y a quelques cas comme ça. Le problème, c'est d'en faire une généralité. Le souci, c'est que eux, les cas qu'ils voient, ils sont réels, et on ne peut pas les nier. Mais ils voient 5 cas sur 50 000, 500 000 utilisateurs.
Merci de le dire, j'attendais que tu le sortes.
Voilà, quoi. C'est
c'est important.
La proportion de ça, quoi.
Oui, il faut le dire, quoi.
Donc, et parmi les fumeurs, là, pour la plupart, ça se passe très bien. Et donc, ceux-là, les psychiatres ne les voient pas. Eux ne voient que. Cette partie de l'iceberg, on va dire, c'est pas la bonne image, mais ils en voient qu'une partie. Ils en voient qu'un pour 1000 ou 1 pour 10 000 des fumeurs.
Oui. Alors, en tout cas, cette psychiatre, ce qu'elle dit elle dit que bon, alors elle connaît les arguments et les reproches faits par le docteur Fallu, et donc elle insiste en disant notre association dit que le cannabis n'est pas une substance banale. Alors là, on est bien avancé. On veut que les ados sachent pourquoi. Nous, cliniquement, on voit ceux pour qui la consommation a des effets dévastateurs. On veut que le message passe. Cette drogue n'est pas inoffensive pour tout le monde. Voilà. Bon, c'est vrai que ça, on le savait pas. Hein. Alors là, on apprend quelque chose. Voilà. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un peu le même genre de discours qu'on peut retrouver chez pas mal de prohibitionnistes, d'opposants et notamment parfois de psychiatres, pas que, hein, mais ce genre d'argument, voilà.
Mais c'est le problème, c'est le message, cette drogue, ce produit n'est pas inoffensif pour tout le monde. Mais on peut le dire de toutes les drogues.
Toutes les substances psychoactives.
Toutes les substances. L'alcool, tu es bien parlé pour en parler. Il me semble que tu ne bois pas une seule goutte d'alcool.
Ah non, mais moi je supporte pas. Moi.
Voilà.
Ça me rend malade.
C'est une drogue qui te rend malade. N'est pas bonne pour toi. Et il y en a beaucoup pour qui c'est pareil. Et de temps en temps, il faudrait mieux savoir choisir. Quoi, entre...
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pour finir, dernier paragraphe qui est aussi assez intéressant et qui s'appuie sur notamment une recherche de l'école de médecine de l'université Washington à Saint-Louis qui a été publiée le 25 octobre dernier dans Psychological Medicine, donc un journal de psychologie, et qui déduit des données colligées aux États-Unis entre 2003 et 2014 sur plus de 210 000 jeunes. Donc c'est quand même une grosse étude. Et qui dit quoi que
En fait, les grands indicateurs des comportements à risque d'adolescents sont tous en forte baisse.
Donc, en gros, hein, parce qu'on va peut-être pas y passer des heures sur ce bout de paragraphe, mais ce que dit cette étude, c'est que globalement, les jeunes, les ados, les jeunes adultes et les adolescents hein, consomment moins d'alcool, moins de tabac et moins de drogues illicites. Ils se battent moins et volent moins.
Tout à fait.
Voilà, donc auprès de jeunes de 12 à 17 ans. Hein. Donc en 12 ans, la consommation de drogue a reculé de 49%, ce qui est énorme, hein, chez les ados américains. Et les comportements délinquants, comme le vol, ont baissé de 34%. Voilà. Et alors, ça, ce petit bout-là nous permet de faire le lien avec l'article dont on parlera en fin d'émission. L'étude rappelle aussi que l'actuelle crise des opioïdes touche les adultes aux États-Unis et pas les jeunes. Voilà. Et donc Fallu continue en disant pour ce qui est de la délinquance et de la criminalité, ce n'est pas juste la jeunesse qui change. La société est moins violente et c'est une tendance lourde depuis plusieurs décennies, contrairement à ce que l'ancien Premier ministre canadien nommé Stephen Harper voulait faire croire en durcissant la loi. Voilà, Stephen Harper, c'était une espèce de Sarkozy canadien. Voilà, donc Fallu rappelle qu'il souligne que sa spécialité n'est pas la criminalité mais la toxicomanie, et que là encore les données montrent que les jeunes de la société américaine comme les ados canadiens ou québécois consomment moins de drogue que les générations précédentes. Un point c'est tout, dit-il, donc il est assez péremptoire. Hein. Nous sommes dans une phase descendante et elle semble se maintenir plus longtemps que les anciens cycles. Voilà. Les campagnes de prévention semblent avoir frappé juste, comme les appels à boucler les ceintures en voiture. Une hypothèse établit un lien avec le temps en ligne. Des enquêtes suédoises prouvent aussi que plus on occupe les jeunes, par exemple en leur offrant des activités sportives parascolaires, moins ils s'évadent par la drogue ou l'alcool. Voilà. Là, je suis un peu circonspect quand même sur cette dernière proposition. Il n'y a pas que en proposant des activités parascolaires qu'on permet aux jeunes de moins s'évader par la drogue ou l'alcool. Il y a aussi d'autres paramètres, à mon avis, en leur donnant, dans l'éducation et dans l'instruction qu'ils reçoivent, si on leur donne l'impression qu'ils ont un avenir et un espoir d'avenir dans leur vie personnelle, professionnelle, future, à mon avis, c'est aussi ça a aussi un gros impact sur les jeunes. Voilà.
Ouais.
Y a pas que le sport, les activités parascolaires pour occuper les jeunes. Voilà, faire l'occupationnel, ça marche un moment, mais pas complètement.
Il y a aussi la danse et tout ça, il faut s'activer.
Voilà, ouais, tout à fait. La lecture, pas que les tablettes et les ordinateurs. Et les jeux vidéo. Voilà, pour ce petit article, ce petit coup de gueule du professeur Fallu. Et puis, on va s'écouter un peu de musique. À tout de suite.
Je laisse écouter moi le baiser dans tout ça. dernière.
Ouais, eh ben, on vient de s'écouter donc Parabellum.
Oui, quel titre ?
Ben, s'il vous plaît, 08.
Voilà.
38.
S'il vous plaît, 08-38 ?
Ouais.
Bien.
Ou 8h38, je sais pas exactement.
Ok. Alors, maintenant, on va jouer un peu au Lego.
Ouais, si tu veux, allez.
Allez, on joue au Lego. On se fait une petite partie de Lego. Alors, pourquoi on va vous jouer au Lego aujourd'hui ? Bah, tout ça parce que Lego, donc, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, je sais pas. Lego, c'est une boîte danoise qui, depuis maintenant 57 ans, fabrique des jouets pour enfants. Et le principe, c'est d'avoir des blocs qui s'assemblent et qui s'emboîtent les uns avec les autres. Voilà. Bon. Et donc Lego a décidé de changer la nature de ces blocs de plastique, de ces blocs, de ces petites barres, de ces plaques en plastoc en fait colorées, hein, qu'ils utilisent depuis 57 ans à base. Alors c'est du plastique à base de. Attendez, je vais vous le trouver.
Jusqu'à maintenant, ouais, c'est à base de...
d'acrylonitrile butadiène styrène. C'est comme ça que sont fabriqués les petits blocs de plastique. C'est la résine.
Les prochains. Ah non.
Actuellement, c'est ça, de l'acrylonitrile butadiène cystyrène.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mais d'ici à 2030, donc c'est encore pas tout de suite, mais ça va assez vite. Hein. Donc ici 2030.
C'est demain. Ouais.
Voilà. D'ici 2030, Lego prévoit de remplacer son plastique chimique fait à partir de pétrole, en fait. Eh bien, il prévoit de le remplacer par du plastique qui serait fait à partir de chanvre.
Oui, tout à fait. On avait vu des éléments.
Génial.
Comme ça, il y a déjà une dizaine d'années que ça existe.
Oui.
Alors, il restait encore quelques pourcentages de produits qui n'étaient pas totalement naturels à l'époque. Alors, je ne sais pas où ils en sont exactement aujourd'hui. En tout cas, il y a une entreprise qui travaille dessus. Hein, et ils
une entreprise
utilisent,
australienne.
Voilà, ils utilisent le chanvre puisque dedans, il y a 70 à 80% de cellulose, ce qui est quand même d'un rendement élevé et très intéressant donc, pour faire du plastique.
Oui, alors il y a autre chose qui n'est pas dit dans cet article, mais j'en suis quasiment sûr à 99%, parce que c'est à peu près le cas de tous les plastiques. C'est-à-dire que les plastiques à base de pétrole, il renferme également plein de perturbateurs endocriniens. Ce qui est franchement pas top quand on sait que les enfants peuvent jouer avec. Et c'est d'autant moins top que, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, on sait que la qualité du sperme des occidentaux baisse et que les perturbateurs endocriniens sont en grande partie responsables de ça. Ces perturbateurs endocriniens affectent également les capacités cognitives. Je ne sais pas si vous avez regardé ce reportage qui, je crois, est passé sur Arte samedi soir, qui s'appelle « Tous crétins » et qui montrait justement l'influence des perturbateurs endocriniens, de certains d'entre eux en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on est malheureusement encerclé, entouré de tous ces perturbateurs endocriniens. Il y en a dans tous les plastiques. Il y en a vraiment partout, hein. Même là où on est actuellement, on en a autour de nous. Si vous avez un téléphone portable qui a des bouts de plastique dedans, il y a des perturbateurs endocriniens sur les claviers de vos ordinateurs, dans les matelas, dans les coussins, partout.
Dans les cols, dans les peintures.
Voilà.
Il y a de tout partout. Ouais.
Donc. Eh ben, on est ravis d'apprendre que Lego va remplacer ses plastocs à base de pétrole avec des plastocs faits avec du chanvre.
Voilà, mais c'est déjà une matière qui est utilisée, hein, qui sert dans d'innombrables produits allant du bouton aux pailles, aux meubles de maison, aux frisbees, et voilà, et donc même des blocs de construction de jouets, puisqu'ils ont déjà fait des éléments comme ça.
Voilà. Et c'est pas nouveau, hein. Henry Ford lui-même utilisait du plastique de chanvre pour construire des portes de voitures et des ailes en 1941.
Voilà.
Donc, il y a bientôt 80 ans, quoi.
Oui, non, mais il y a plein de choses qu'on redécouvre aujourd'hui qui ont été déjà découvertes à l'époque.
Et qui ont été un peu mis de côté, la faute à qui ? Ben, à la prohibition, en grande partie.
Voilà, voilà, pour ce petit épisode Lego.
Donc d'ici 2030, hein, pas tout de suite. Enfin, patientez jusque-là, si vous voulez acheter des jouets, des Lego à vos enfants. Voilà, jusqu'en 2030, ils seront dégueux. Ces blocs de plastique. Voilà. Alors pour terminer, on va s'intéresser à cet article de Courrier International dont on n'a pas eu le temps de parler précédemment. Un article qui est daté de mi-octobre et qui s'intitule « Épidémie d'opioïdes aux États-Unis, l'industrie pharmaceutique au banc des accusés ». Donc, de quoi que ça cause ?
Voilà, ce qu'on apprend donc là dans l'article, là, une grande enquête qui est menée dans le magazine d'information 60 Minutes et de la chaîne CBS et du Washington Post, met en cause donc les fabricants de médicaments dans la propagation d'opioïdes qui a fait 200 000 morts par overdose depuis 2000 aux États-Unis.
Donc ça a même tué plus que les armes à feu.
Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, on arrive même à 33 000 morts actuellement, déjà cette année, dues aux opioïdes. Alors voilà, là, c'est par overdose, moi, dans le cas, parce que dans cet article, il y avait aussi d'autres choses, hein, puisqu'il parle d'épidémie d'opioïdes, et que le marché est inondé. Donc, beaucoup de gens les utilisent à bon et à mauvais escient. Et donc, et ça fait des accidents, souvent. Plus que des overdoses, voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément comptabilisés comme overdoses, qui le sont aussi. C'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que, selon les sources, on a parlé de beaucoup plus par an. Quand on multiplie par 17 ans le nombre de morts par 30 000, il y aurait un problème. Voilà. Et donc c'est pour ça que je. Donc, qu'est-ce qu'on y apprend d'autre dans cet article là-dessus ? C'est que.
Ce qu'on apprend, c'est que il y a quand même une collusion entre les fabricants
et les trafiquants.
Oui.
Et donc les trafiquants organisent, quoi, les fabricants organisent un marché noir pour revendre eux-mêmes les produits ou les faire revendre autrement, c'est ça. Si j'interprète bien ce qu'ils racontent un peu.
Oui, oui. Puis moi, je trouve que ce qui est plus grave, c'est que il y a une collusion entre la DEA et les fabricants.
Aussi.
Donc il y a de la corruption en fait. Puis il y a du favoritisme. Parce que, bon. Comment dire, je cherche le passage que je voulais vous trouver, mais c'est peut-être un peu plus bas.
En fait, il y a une telle collusion avec les entreprises pharmaceutiques que les politiques, c'est qu'il y a même des lois qui sont passées. Alors là, il parle d'un truc d'avril 2016. La guerre opioïde a déjà fait 2000 morts par overdose, donc. Donc cette loi, elle est favorable au secteur pharmaceutique, a été le point d'orgue d'une campagne multifacette orchestrée par l'industrie du médicament. Et donc cette loi veut bloquer en fait justement la DEA. C'est pour ça qu'il me semblait pas que justement à chaque fois que la DEA arrive à sortir quelque chose, ils arrivent à contre-attaquer. Et ils ont même été infiltrés. Quoi, ils ont même infiltré la DEA et ils savent à l'avance où comment se protéger pour ne pas être pris.
Bah, oui, et puis ils y arrivent d'autant mieux que ces industriels ont débauché au moins 46 employés de la DEA ces 15 dernières années, ces 10 dernières années, dont 32 travaillaient dans la division de régulation de l'industrie du médicament. Donc voilà, c'est sûr que en faisant comme ça, les industriels savent mieux comment opérer d'un point de vue stratégique.
Voilà, donc et enfin la DEA, c'est quand même elle qui a concentré ses efforts sur les distributeurs, les grossistes en médicaments, en surveillant et en bloquant certaines de leurs livraisons les plus importantes. Ces méthodes offensives de la DEA, guerre prisée de l'industrie pharmaceutique, ont alors poussé fabricants et distributeurs de médicaments à s'organiser pour contre-attaquer et faire voter au Congrès une loi protégeant leurs intérêts.
Voilà. Et donc, ben, c'est d'autant plus simple si, s'ils ont des membres de la DEA dans leurs équipes, en fait.
Tout à fait, voilà. C'est vrai qu'ils...
Voilà. Alors... Il y a quand même, alors aujourd'hui, il y a quand même des poursuites qui sont engagées contre ces industriels. Il y a des avocats spécialisés qui se sont mis dans la bagarre, en fait. Mais il n'y a pas que des avocats ou des particuliers, également des États, puisqu'il y a quand même 41 procureurs généraux qui ont uni leurs efforts pour enquêter sur le secteur. C'est d'où un article du Washington Post. Hein. Ça fait beaucoup de bruit là-bas quand même. Et à travers le pays, apprend-on, des centaines de comtés, de grandes et de petites villes ont lancé des poursuites contre l'industrie. Voilà. Pour conclure son enquête, le Washington Post s'est quand même rendu sur le terrain dans le petit comté de Lycoming, soit une partie de la circonscription du député républicain Tom Marino, dans le nord-est de la Pennsylvanie. Voilà. Donc depuis 2014, l'année où le député a introduit son premier projet de loi destiné à protéger les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et quand même, il y a quand même dans ce comté 106 habitants qui sont morts à cause des opioïdes. Et cet été, en l'espace de 6 jours, 53 personnes ont été victimes d'une overdose et 3 en sont décédées. Voilà. Donc c'est un article du Washington Post qui a été publié le 15 octobre. Et diffusé également dans le magazine d'information 60 Minutes à la télé sur la chaîne CBS. L'enquête a provoqué une onde de choc à Washington, apprend-on. Alors Donald Trump, il est allé de son petit tweet. Il a décrété que l'état d'urgence national. Et donc sur Twitter, il a dit voilà, le député Tom Marino m'a informé qu'il ne brillait pas plus le poste de tsar de la drogue. Donc ce Tom Marino, il se voyait déjà à la tête de l'agence anti-drogue américaine, alors qu'il favorisait les intérêts des industriels des opioïdes, quoi, enfin des médicaments à base d'opium, quoi. Donc voilà, au moins il s'est retiré suite à l'enquête. Je sais pas si on se rend vraiment compte de ce qui se passe aux États-Unis en fait depuis à peu près 2-3 ans. Parce qu'il y a cette prise de conscience de l'administration, de la classe politique, du monde médiatique, de journalistes et d'avocats sur les dangers de ces opioïdes, qui sont prêts maintenant à quand même attaquer les industriels, dont on sait qu'ils ont recruté... dont on sait qu'ils ont recruté des membres de la DEA, la DEA qui jusqu'à très récemment maintenait le cannabis dans la catégorie des drogues dangereuses à combattre, et qu'il n'y avait pas de propriété médicinale au niveau du cannabis.
Mais la prohibition des drogues sert à tous ces organismes d'État à permettre un contrôle social, et puis c'est tout, un contrôle des gens.
Oui, mais justement, justement ce que j'explique, c'est qu'il y a vraiment un bouleversement en ce moment aux États-Unis. C'est que justement il y a des États qui légalisent, on est en train de chercher un peu ce qui se passe au niveau de ces industriels du médicament, il y a de plus en plus d'États qui changent leurs lois, que ce soit sur le thérapeutique ou le récréatif. Voilà, bon bref, en tout cas aux États-Unis, sur toutes ces questions-là, ça bouge enfin, pourrait-on dire, mais en tout cas voilà, ça va plutôt, je trouve, dans le bon sens. Et à côté de ça, ben, chez nous, on en est toujours là, on n'avance pas.
Voilà, ben on va bientôt finir avec un grand morceau.
Tu veux finir en musique?
De Ludwig, bah oui, tout à fait, de manière, il nous en faut un peu pour faire la transition. Donc ce sera un bon article de Ludwig, maintenant qu'on n'a plus grand chose à dire. Rappelez peut-être l'adresse du cirque si tu veux, et je te laisse 10 secondes.
Avant de repartir en musique et en punk, voilà. Le cirque Lyon, donc vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Par voie postale, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne Sedex. C'est le moment de réadhérer pour 2018. Une adresse mail, cirque-lyon@no-log.org, et un site internet www.cirque-lyon.fr. Une page Facebook sur Facebook, une page Facebook Cirque Lyon, une page Facebook Cirque. et également une chaîne de télé sur YouTube Cirque TV avec plein d'autres informations dont on peut pas vous parler à l'antenne. Voilà.
Et puis il y en a marre du sparadrap, un cannabis. Il faut penser le changement et arrêter de changer de pansement.
Voilà. À la Sorbonne, à partir de demain, 19h30.
Allez, ciao à toutes, ciao à tous.
À la semaine prochaine. Et maintenant, c'est Ludwig. Allez.